Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcasts ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Sophie Lacoste. Salut Sophie.
Bonjour Adrien.
Comment ça va ?
Ça va très bien, très bien.
Parfait. Alors un peu pour mettre un petit peu de contexte, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, Sophie ?
Alors on est dans notre showroom parisien, entouré par les vêtements de la collection de l'hiver prochain, donc de l'hiver qui va commencer à l'automne 2024. Et c'est chouette parce que on est toujours hyper enthousiaste des produits à venir. C'est toujours le problème, hein, parce que quand on va dans les magasins, on voit les produits qu'il y a en ce moment et on se dit mais ça sera tellement mieux l'année prochaine. Ouais. Et c'est toujours, c'est ça qui est bien, c'est que c'est toujours en perpétuelle amélioration. Donc, on est autour de coloris qui me font plaisir, qui sont joyeux, parce que là, en plus, on est dans le département ski.
Ouais.
Et c'est la chance de Fusalp, c'est qu'on a, grâce au ski, la possibilité de faire des couleurs très vives, des vêtements tout blancs, enfin voilà, des choses comme ça un peu beaucoup plus extraverties que ce qu'on pourrait faire juste pour la ville. Donc c'est joyeux d'être entouré de toutes ces couleurs et de ces graphismes.
Trop bien. Deuxième question, c'est qui es-tu ? Comment tu te présentes au monde quand on te demande de te présenter ?
Je dis que je suis coprésidente de Fusalp.
Ok.
Je suis coprésidente avec mon frère Philippe. Et de Fusalp, de cette belle entreprise qu'on nous avons rachetée.
Très bien. Eh ben, on va diguer dans tout ça en long, en large et en travers. J'espère que tu as un peu de temps devant toi parce que c'est assez colossal comme programme. T'es né où ? T'as grandi où ? Et qu'est-ce qui t'a amené à racheter Fusalp en 2012, hein, c'est ça ?
Ouais. En 2013. Vraiment le 20 décembre 2013.
Vous avez vendu en 2012 et vous avez racheté en 2013, c'est ça, pardon.
Exactement. Je suis née à Paris, dans une famille où j'ai évidemment beaucoup de chance d'être née là où je suis née, avec un environnement hyper créateur de valeurs.
Ouais.
Et dans une famille assez, alors, je ne dirais pas forcément féministe, mais qui m'a jamais empêchée, de rêver ou de vouloir faire ce que je voulais.
Okay.
On n'avait pas d'incapacité parce qu'on était femme, et déjà je pense que ça c'est une grande chance.
Mmh.
Et j'ai toujours été considérée par mon entourage, par mes grands-parents, par mes parents, comme quelqu'un étant capable de faire des choses. Et ça m'a toujours permis d'envisager tous les possibles.
Mmh.
Parfois j'ai peur de faire des choses, je me dis c'est un peu fou, mais je me dis toujours je peux le faire.
Mmh.
Et ça vient vraiment profondément de mon enfance, je crois.
Et quoi, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire concrètement, il te disait vas-y, fais-le, lance-toi.
Oui,
c'était quoi dans l'éducation ?
Mais c'était même pas une... Alors j'ai une maman qui nous a toujours dit qu'on était fantastique, extraordinaire, que tout ce qu'on faisait était génial,
ouais.
Mais qu'en même temps c'était une responsabilité. C'est-à-dire, elle me disait, ça peut paraître un peu fou, on n'a pas l'habitude d'être élevé comme ça, mais ma mère me disait t'es quelqu'un de très intelligent, mais ça te donne des devoirs, il faut que tu ailles au maximum de tes capacités, tu peux pas te permettre, en ayant cette intelligence, de faire des choses de manière mièvre, ou voilà. Donc ça paraît en même temps très... ce qui fait qu'en fait ça m'a rendu capable, puisqu'elle m'a persuadé que je pouvais faire des choses, mais sans non plus me rendre coupable ou m'annihiler, ou en me disant mon Dieu, la barre est trop haute, parce que il fallait que je fasse des choses bien, mais j'en avais les capacités.
T'as reproduit ça avec tes enfants ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Exactement toujours. Pareil.
Ouais, ouais, ouais. On est beaucoup comme ça, dans le côté peut-être un peu américain.
Ouais, you can do
c'est fantastique,
just
you can do it. Et puis voilà, et de glorifier les bonnes notes, et puis pas que les bonnes notes, le bon comportement, les bons résultats sportifs, hein, le fait de faire du sport. Mmh. Moi, j'ai pas l'esprit de compétition, en revanche, qui est un truc assez rare dans ma famille. C'est tous des gros compétiteurs.
Ouais. Moi, toujours plus.
Ouais, toujours plus. Et puis voilà, et puis on a la niaque. Moi, c'est pas mon truc, la compétition. J'ai jamais aimé ça. Le sport, je suis très sportive, mais j'aime pas la compète.
Mais t'es une combattante quand même, non?
Oui, je suis une combattante.
Combattante,
mais pas pour écraser les autres.
Ouais.
Ouais. Enfin, après, la compétition, c'est pas forcément écraser les autres. C'est être meilleur que les autres.
Enfin, il faut que t'éclates tout le monde quand même pour gagner,
oui,
quoi.
Voilà. Et meilleur que soi-même. Moi, gagner, c'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est aller au-delà de moi-même, ouais. De me dépasser, de grandir toujours, de m'améliorer, de faire les choses de mieux en mieux. J'adore la nouveauté. Je fais beaucoup de choses très différentes et je me projette toujours dans l'avenir. J'ai cette chance de jamais regarder derrière et d'être toujours devant. Donc, mais pas forcément pour gagner quelque chose, en fait. C'est pas un truc qui me motive plus que ça.
Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que grandir chez les Lacoste, à part ça? Qu'est-ce que t'aspires à quoi quand tu grandis? Qu'est-ce que tu fais comme études? C'est quoi tes rêves de petite fille?
Alors, moi, mon rêve de petite fille, c'était d'être comédienne.
Ouais.
J'ai toujours voulu faire du théâtre, j'ai toujours voulu jouer, lire, découvrir.
Mais c'était tombé dessus comme ça par hasard ou c'était
alors,
une culture dans la famille?
En fait, non, pas du tout. C'était pas du tout une culture familiale. Mais ma grand-mère maternelle était très amie avec un sociétaire de la Comédie-Française.
Ouais.
Et quand j'étais enfant, elle m'emmenait le mercredi après-midi. On avait la loge présidentielle en plein milieu de la Comédie-Française, des invitations de son ami. Et donc, on le regardait jouer. Et après, on allait dans sa loge sous les toits de la Comédie-Française. Et ça m'a profondément impressionnée. Et j'ai toujours adoré ça, en fait. Mais je suis la seule de ma famille, hein. Personne ne va au théâtre, c'est pas quelque chose. En plus, ma maman est sourde profonde, donc le théâtre, pour elle, c'est pas un sujet, parce qu'elle comprend pas ce qui s'y passe.
Depuis toujours ?
Depuis toujours, ouais.
D'accord.
Depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a 4 ans. Donc, c'est pas la musique, le théâtre, c'est pas il y a jamais eu de musique chez moi, c'est pas des choses qui lui parlaient. Mon grand-père aussi était très malentendant, donc c'était pas des sujets familiaux. Mais moi, ça m'a tout de suite procuré une très grande joie de jouer et d'aller au spectacle aussi. Ça m'a tout de suite émerveillée et offert en fait une bulle d'air. C'est-à-dire que c'est un temps de respiration, un temps où tu arrêtes en fait tout ce qu'il y a autour de toi. Tu te retrouves face à toi-même en fait. Mmh. C'est pareil, je pense, devant une peinture. C'est une émotion où tu te retrouves face à toi-même. Un temps qui du coup est long dans le théâtre, peut être très long. Là, demain je vais voir un spectacle qui va durer 4h30 et tu te retrouves face à ça. Par moment tu t'ennuies, par moment tu t'endors, mais tu as une vraie vie pendant le spectacle qui te rappelle en fait, qui te ramène à tes sensations profondes. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très enrichissant. Donc je voulais faire du théâtre.
D'accord.
Enfant, toujours, j'ai fait beaucoup de théâtre enfant. Après, j'ai eu une adolescence un peu plus compliqué et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit non, je suis pas capable d'aller faire du théâtre maintenant, je suis pas assez solide. Je me rendais bien compte que faire du théâtre c'était se mettre face à des gens, à des metteurs en scène, à des professeurs qui allaient être dans une relation pas forcément facile tout le temps et qu'il fallait quand même être soi-même, bien avec soi-même, et ce qui était pas totalement mon cas à 17-18 ans. Donc j'ai senti qu'il fallait que je fasse autre chose, et puis en plus j'avais très envie de comprendre le monde dans lequel je vivais. Moi, j'ai grandi dans une entreprise toute ma vie. C'est-à-dire que je suis allée dans les bureaux de Lacoste toujours. Quand j'étais petite, on défilait entre deux tables de commerciaux. Je connaissais tous les gens de l'entreprise. Enfin, j'avais cette culture d'entreprise très forte et j'avais envie de comprendre mieux le monde économique. Donc, je me suis dit, je vais aller faire Dauphine.
Mais juste avant de diguer dans tes études, c'est quoi la culture de la famille? C'est-à-dire qu'on prépare les enfants à reprendre à un moment donné le flambeau de l'entreprise. On transmet des choses pendant les repas de famille, ou on fait des stages très rapidement. On confronte les enfants à ça.
Oui, alors ce qui était certain, c'est qu'il fallait qu'on fasse des bonnes études. Ça, c'était évident. Moi, j'ai un père qui est normalien, une mère qui a agrégé de philo. Enfin, bon, voilà, on est dans des niveaux d'études qui sont quand même. Moi, Dauphine à côté, c'est quand même très 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 simple.
C'est pas ouf.
Et voilà. Et donc, du coup, on a cette exigence d'études qui est très forte. Après, oui, bien sûr, c'est induit d'aller travailler chez Lacoste. C'est induit, c'est pas un dû,
Mmh. Ouais, il faut le mériter
quand
même.
Il faut en être capable, mais c'est induit. Moi, je suis rentrée au conseil d'administration, j'avais 23 ans aussi. Enfin, tu vois, on fait partie de la vie de l'entreprise. L'entreprise et la famille sont pas très dissociées. Le mythe de l'entreprise, c'est mon grand-père. Mon grand-père a une place très importante. Moi, je l'ai connu très, très bien. Il est mort quand j'avais 20 ans. J'étais très, très proche de mes grands-parents. Je les appelais au moins une fois par semaine à partir de mes 10 ans. Ils habitaient au Pays Basque, donc je les voyais pas tout le temps, mais je passais énormément de vacances avec eux et à vivre avec eux, hein, vraiment. Donc, je parlais énormément avec eux. Donc, on avait ce mythe-là et cette envie. Oui, Lacoste, ça faisait partie de nous. C'était vraiment très, très ancré.
Tu peux nous refaire une histoire accélérée de Lacoste, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, Lacoste a été créé en 1928 par mon grand-père, René Lacoste, qui était un grand champion de tennis, mais surtout un ingénieur. Il était ingénieur aéronautique. Lui, à cette époque-là, le tennis, il a gagné la Coupe Davis, Roland-Garros, Wimbledon, tout ce qu'on veut. Mais donc grande star de tennis, mais à cette époque-là, c'était amateur, c'était pas du tout un métier, on gagnait pas d'argent, c'était vraiment pour le loisir. Donc son métier à lui, c'était d'être ingénieur et ingénieur aéronautique. Il avait sa propre société d'ingénierie aéronautique. Il a beaucoup travaillé sur le Concorde, sur le bec du Concorde. Enfin, c'était un inventeur. C'est le premier à avoir inventé il a inventé la première raquette de tennis en métal, la première machine lance-balles. Il a beaucoup travaillé sur des clubs de golf. Il était tout le temps jusqu'à la fin de sa vie en train d'inventer un truc. C'est un ingénieur, vraiment, fondamentalement. Et donc, son rapport au tennis, d'ailleurs, était lié à l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il avait des petits carnets, des dizaines et des dizaines de petits carnets, où il notait, il étudiait, en fait, tous ses adversaires. Pendant des heures, il les regardait jouer. Et il notait, en fait, tous leurs points faibles et ce que lui devait améliorer aussi. Donc, il conscientisait tout, en fait. C'était de la visualisation avant qu'on l'a...
Avant Tony Robbins.
Exactement. Et du coup, il a fait ça toute sa vie aussi avec les autres joueurs, avec les joueurs de tennis français. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs de tennis vous racontent que mon grand-père leur écrivait des lettres de 10 pages pour leur faire le compte-rendu du match qu'ils avaient joué, qu'il avait regardé à la télé, mais en ralenti, pour faire toutes les critiques possibles sur leur jeu. Enfin, limite un peu relou, tu vois. Enfin, quand même. Mais
contrôle fric un peu.
Voilà, mais des gens, gardent un souvenir très très ému de ça, parce que d'avoir quelqu'un qui a passé autant de temps de cette stature-là, c'était un grand homme, vraiment. Sur ton jeu, c'était très émouvant pour eux aussi. Et puis ça leur apportait beaucoup, parce que ce qu'ils disaient n'était pas forcément dénué de sens non plus. Donc cet homme-là, très passionné, pour qui Lacoste, la chemise Lacoste, était un job du samedi matin, en fait. Il a inventé le logo sur un vêtement. C'est le premier vêtement qui a porté un logo, c'était un polo Lacoste.
C'est lui qui a créé le croco.
Oui, c'est lui qui a créé le croco, en fait. Il a joué un match aux États-Unis et il a dit à son coach, ils sont passés la veille devant une très belle boutique à New York avec des bagages incroyables et devant une magnifique valise en crocodile. Et il avait, je sais pas, 20 ans, il était tout jeune, et il dit à son coach, si je gagne demain, tu m'achètes la valise en croco. Il a perdu, donc il n'a pas eu la valise en croco, mais il a raconté cette histoire à un journaliste qui, du coup, l'a appelé René Lacoste l'alligator. Parce qu'aussi, il avait un jeu assez ennuyeux, visiblement, où un peu, tu sais, l'alligator qui prend sa poire, qui la met au fond de l'étang et qui attend que le mec meure sans bouger. Mon grand-père, c'était ça. Il attendait la faute, quoi. Il faisait du fond de cour en attendant en amenant le mec à bout, en face. Et donc, il a pris ce surnom l'alligator. Comme il a trouvé ça drôle, à cette époque-là, tu rentrais sur les terrains de tennis en chemise de costume avec un blazer. Et donc, il s'est fait broder un crocodile, un alligator, sur son blazer.
Incroyable.
Et il avait remarqué quand même qu'il allait jouer de plus en plus aux États-Unis. Il allait falloir qu'ils aillent jouer contre l'équipe américaine, puisque l'équipe de France commençait à avoir un certain niveau, pour essayer de gagner la Coupe Davis, qu'ils ont gagné. La première fois que des non-américains gagnent la Coupe Davis. Et en fait, il trouvait qu'il faisait très très chaud aux États-Unis en été, très humide. Et il s'est dit, ces chemises de costume, tu vois, les chemises normales,
en popeline,
sont pas du tout faites pour les chaleurs américaines ni pour faire du sport. Je vais essayer de trouver une matière qui me permette d'être confortable. Et il a inventé le petit piqué, la matière du polo, avec un monsieur qui s'appelait André Gillier à l'époque, qui du coup l'a fabriqué. Et ils se sont dit, on va faire une chemise manche courte, puisque manche longue, c'est pas bien. Et donc, il a inventé le polo. Et comme il trouvait ça rigolo, il s'est dit, je vais broder un crocodile dessus. Et de là est sortie la chemise Lacoste. Et après ça, il a créé l'entreprise La Chemise Lacoste en 1928. Et ils ont aussi inventé le sponsoring avec Toto Brugnon, qui était un... parce qu'en fait, c'était une équipe qu'on appelait les mousquetaires du tennis. Il y avait Toto Brugnon, Jean Borotra, René Lacoste et Monsieur Cochet. Et donc, en fait, Toto Brugnon s'est associé, enfin, était très très proche de mon grand-père, et tous les week-ends partait voir les joueurs de tennis, sur les bons joueurs de tennis un peu partout en France, pour leur filer des polos blancs Lacoste. Et c'est comme ça qu'ils se sont tous mis à jouer en polo blanc Lacoste. Et donc Lacoste a fait des polos blancs pendant des années, et mon oncle est arrivé dans les années 60 et a dit à mon grand-père, écoute, là c'est l'essor, parce qu'à cette époque-là, avant les années 50, fin des années 50, le prêt-à-porter n'existait pas. Il fallait faire ses vêtements soi-même ou aller se les faire faire, voilà. Et donc mon oncle va voir mon grand-père et lui dit qu'il était aussi lui ingénieur, a fait ses études aux États-Unis. Il vient voir mon grand-père en disant, écoute, c'est l'essor du prêt-à-porter. Moi, je pense que Lacoste peut faire autre chose que des polos blancs. On peut faire des polos de couleur. On peut faire un certain nombre de choses. J'ai envie de tenter. Et mon grand-père lui a dit, ok, mais tu n'ouvriras jamais ta famille avec ce truc-là. Mais si tu veux, essaye. En revanche, me demande jamais d'argent. Et donc, il a développé des polos de couleur, d'autres gammes de vêtements, des vêtements pour le tennis, des vêtements pour la ville, et puis bon, le succès qu'on connaît. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il l'a développé, et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi l'esprit sportif, parce que mon grand-père lui a pas dit, je te donne temps pour développer, et puis à cette époque-là, il y avait pas de fonds d'investissement, voilà. Il a trouvé des partenaires à chaque fois pour développer à la fois les vêtements, les autres accessoires, développer la distribution, développer l'international. Ce qui fait qu'en fait, Lacoste, à la fin, c'était un grand, grand, grand maillage d'entreprises quasiment toujours familiales dans le monde entier, de gens qui collaboraient pour faire développer cette entreprise Lacoste. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Tout a été racheté par la même famille. Mais c'était joli, en fait, cette espèce d'énorme collaboration entrepreneuriale mondiale de plein de groupes de tailles différentes qui amenaient chacun leur pierre à l'édifice de ce projet.
Trop bien.
Voilà Lacoste.
Lacoste en 5 minutes. Donc toi, tu rentres chez Lacoste, tu vas chez Dauphine déjà.
Oui.
Ensuite, tu fais un autre truc, non, il me semble.
Oui, ensuite, je suis allée un tout petit peu travailler dans une banque. Et puis après, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus sérieux. Donc, je suis allée faire du théâtre. J'ai passé des concours pour faire une école nationale de théâtre.
Ok.
Et j'ai été comédienne pendant 10 ans.
Pendant 10 ans ?
Ouais.
T'es vraiment comédienne ?
Ouais, de théâtre.
Au théâtre.
Et en même temps, je suis administratrice de Lacoste.
D'accord, donc tu restes connectée à l'entreprise.
Toujours, toujours ouais. Beaucoup. Et en même temps aussi, j'ai créé la fondation Lacoste, qui rend le sport accessible à des jeunes qui n'y ont pas accès dans le monde entier. Et donc, j'avais ces trois activités en parallèle.
Trop bien. Carrière d'actrice, ça, il se passe quoi en 10 ans ? C'est quoi les grands milestones de ta carrière d'actrice ?
Bon, c'est une carrière d'actrice dans le théâtre public avec une compagnie à Marseille. Moi, j'habitais là-bas à ce moment-là. Donc, avec quelques projets par an, que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a emmené à un moment à une certaine frustration. Parce que je trouvais que je ne faisais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, que ce milieu était très sclérosé et que les décideurs, en fait, perpétuaient des schémas qui ne me paraissaient pas positifs. Et je trouvais qu'à mon endroit, moi, d'interprète, bon, j'avais ma propre compagnie qu'on gérait, on proposait des spectacles, j'arrivais pas à faire évoluer ça et les rapports professionnels en fait de pouvoir ne me convenaient pas. Je trouvais qu'il y avait trop d'emprise en fait d'une certaine partie de la profession sur tout le reste. Et je me suis dit que j'étais pas au bon endroit pour le faire évoluer. Et puis aussi j'ai eu des enfants. Quand mon fils avait 6 mois, j'habitais à Marseille, je suis allée travailler au Mans pendant 3 mois avec un seul jour de congé par semaine. Donc le Mans-Marseille pour 24 heures, c'est pas évident. Donc pour un projet qui m'éclatait pas, c'est pas parce que tu fais du théâtre que tout est formidable et que les projets t'éclatent. Donc je me suis dit, ça a pas beaucoup de sens en fait d'être séparée de mon fils pendant 3 mois comme ça, aussi petit. Donc je trouvais que l'organisation n'était pas géniale. Et puis moi, j'avais toujours cette double vie avec Lacoste où je me suis dit, en fait, peut-être je peux un peu plus switcher et être plus sur la vie de l'entreprise. Et en fait, du coup, très vite est arrivée la cession de l'entreprise et je me suis plongée dans le projet entrepreneurial de Fusalp.
D'accord.
Et en fait, le côté théâtre est passé du côté philanthropie, où je vais toujours beaucoup au théâtre. Je suis absolument passionnée par le théâtre, mais du coup, à ma place de philanthrope, je peux vraiment agir sur les gens que j'ai envie de soutenir et quel théâtre j'ai envie d'éclairer, à quel théâtre j'ai envie de donner les moyens. On donne beaucoup de bourses aussi dans les écoles nationales de théâtre pour faire en sorte que toute une population qui n'avait pas la parole puisse l'avoir.
Comment on te regarde comme l'artiste de la famille à l'époque ?
Oui, sûrement, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça.
C'était une lutte pour toi ? C'était compliqué ?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que je l'ai toujours dit. J'ai toujours fait les discours, même mon père chez Lacoste me faisait faire des discours devant les conventions internationales quand j'avais 14 ans, quoi, en fait. On a toujours su dans les messes, c'est toujours moi qui ai lu les trucs. Enfin, j'ai toujours été celle qui faisait ça. Et mon grand-père, avant de mourir, m'a dit très clairement que pour lui, c'était normal parce qu'il est mort quand j'étais encore à Dauphine, et pour lui, c'était normal qu'après Dauphine, j'aille faire du théâtre, en fait. C'était évident.
Ouais.
Okay. C'était une évidence. Il n'y avait pas de sujet.
Ok. Et c'était un crève-cœur d'arrêter ta carrière, même si tu le fais différemment aujourd'hui ?
Non, c'était un vrai choix. Ouais. En fait, ça me satisfaisait. J'étais pas du tout satisfaite et j'y allais avec beaucoup moins de joie. Et moi, il y a un truc qui est fondamental, la chance que j'ai, c'est de pouvoir faire que des choses qui m'apportent de la joie.
C'est ta façon de choisir les projets.
Ouais.
Ouais, faut kiffer. Donc là, tu rejoins l'entreprise familiale. Tu dis que le projet de cession arrive assez rapidement, en fait, même quand, enfin, en parallèle de ta carrière d'actrice. Mmh. Pourquoi céder une marque pareille ?
C'est une histoire familiale, en fait, tu vois. C'est quand on devient très nombreux, que les intérêts sont moins alignés.
C'est bien ingérable.
Oui, il n'y avait plus de cohésion familiale autour du projet. Donc, c'est pas moi qui ai choisi de vendre.
Si c'était à choisir, tu aurais gardé ?
Je ne le regrette pas. Je pense qu'on est plus heureux maintenant. C'était difficile. On aurait pu peut-être faire les choses autrement, mais... on n'est pas arrivé à le faire autrement. Donc après, la vie qu'on a depuis est quand même hyper hyper chouette, hyper libre. On peut développer des projets, tu vois. Enfin, Fusalp, c'est extrêmement enthousiasmant. C'est un vrai projet d'entrepreneuriat avec toutes ses difficultés, tout. Mais on est dans quelque chose de très vivant. C'était chouette d'avoir un organisme plus petit ou du coup beaucoup plus agile aussi, avec moins de stratégie.
Ouais, et puis vous étiez vraiment les seuls à choisir.
Exactement, il ne faut pas les convaincre, hein, 25 personnes autour d'une table en permanence pour tout, c'est aussi une fatigue de ça. Et puis on l'a remis dans les mains d'un groupe qui s'en occupe bien. Donc j'ai pas de, tu vois, c'est pas comme si Lacoste s'était effondré, au contraire, ça grandit, ça se développe, donc c'était légitime, je pense.
Et toi, tu as été la CEO de Lacoste quand même pendant quelques années.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
J'ai été présidente.
Présidente.
De Lacoste pendant quelques mois.
Pendant quelques mois, juste pour la transition.
Vraiment, ouais,
d'accord.
Okay. Vraiment très peu.
Ok. Et juste pour avoir un ordre d'idée, c'était quoi à l'époque en termes de chiffre d'affaires, en termes de business, Lacoste ?
Je me souviens, ça me paraît tellement loin. On était au milliard et demi de chiffre d'affaires. Alors, pas nous, parce que c'était des histoires de partenariat.
Bien sûr.
Nous, notre entreprise, Lacoste, était détentrice de la marque. Gérer la marque, gérer sa défense, gérer la communication, et coordonner en fait tous ces groupes qui petit à petit se faisaient racheter par celui qui nous a rachetés. Mais voilà, notre travail à nous, c'était de coordonner, coordonner le style, parce que c'était pas la même entreprise qui faisait les vêtements, les lunettes, les chaussures, les ceintures, le parfum. Donc il fallait, et ça c'était le travail de ma belle-sœur Mathilde, qui est directrice artistique de Fusalp. C'est elle qui faisait toutes les tendances pour tout le monde pendant très longtemps, c'est elle qui faisait toutes les couleurs de tous les polos. Mon frère l'a rencontrée chez Lacoste. Elle était déjà à ce poste-là. C'est pas l'inverse.
D'accord.
C'est important. et notre travail, nous, c'était de coordonner le travail de tout le monde. Donc, nous, notre chiffre d'affaires, c'était pas 1,5 milliard, loin s'en faut. Mais c'était un business très rentable, évidemment, puisqu'on n'avait pas de risque, en fait. Nous, on avait la marque et on faisait inspecteur des travaux finis, ce qui était assez agaçant, parfois, pour les gens qui investissaient.
Bien sûr.
Enfin, ça, on pouvait bien le comprendre. Notre modèle même, en fait, était compliqué à poursuivre pour un vrai développement, puisque ceux qui devaient investir n'étaient pas propriétaires de la marque. Donc, on leur demandait d'investir, forcément, ils n'étaient pas toujours d'accord.
Bien sûr. OK. Donc, on tourne cette page familiale. Ça doit être un peu un crève-cœur, mais bon, on passe en avance, quoi.
Ouais.
Et très rapidement, tu décides avec ton frère, c'est ça, hein,
oui, tout à fait, Philippe.
De racheter cette belle endormie Fusalpes. Mm-hmm. Pourquoi vous avez regardé pas mal de dossiers, non, à l'époque?
Oui, bien sûr. Bon, on l'a racheté assez rapidement puisqu'on l'a racheté un an après la vente de Lacoste.
Ouais.
On a regardé plusieurs dossiers. On est allé un peu loin dans un des dossiers. Mais finalement, je suis très, très contente qu'on ne l'ait pas eu parce que c'était beaucoup moins, beaucoup moins évident que Fusalpes. Fusalpes, il y avait une espèce de boulevard devant nous. Ce que je dis souvent, c'est que l'histoire de reprise, c'est une histoire de fit entre les personnes qui reprennent et le projet. Mmh. Et celui-là nous correspondait vraiment très, très bien. Mmh. Il y avait quelque chose qui s'alignait, on avait une vision. Le CEO, à ce moment-là, c'était Alexandre Fauvet qui a fait aussi partie de la reprise. Et tous les quatre, avec mon frère, Mathilde, Alexandre, on avait une vision extrêmement alignée des choses. Mmh. Et donc voilà, c'était très, très, très organique.
Comment ça se passe concrètement? Et une autre question, c'est pourquoi pas partir de from scratch sur une nouvelle aventure, créer une marque from
scratch? Parce qu'on n'avait pas d'idée, tu vois, forte en se disant ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et puis j'aime bien moi l'idée de la reprise parce que c'est tu récupères en fait un patrimoine hyper fort.
Ouais.
D'ailleurs, on a fait un livre pour les 70 ans que j'aime beaucoup parce que on parle vraiment des gens dedans qui ont fait Fusalpes. Mmh. Et t'es passeur, en fait. J'aime bien cette histoire-là de nous, on est là un temps, un jour on sera plus là. Et ce truc, on est là pour vraiment mettre la marque au plus haut niveau, là où elle doit être, parce que je pense que c'est une marque internationale qui a un potentiel hyper fort.
Mmh.
Et voilà, faire ça le mieux possible. Et puis, on n'est qu'un morceau de son histoire.
Mmh.
Et ça, je trouve ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, c'est vrai que on s'inspire d'un patrimoine très fort qui nous aide beaucoup. Et toute la bienveillance autour de la marque nous a énormément aidés. Quand on a ouvert nos premières boutiques, les gens passaient une tête en disant « Oh, Fusalpes, ça existe encore !» Mais je me souviens...
Les gens sont amoureux, c'est ça.
Voilà, il y a un truc, une Madeleine de Proust. Mmh. Les acheteurs, même les acheteurs japonais un peu âgés qui avaient acheté du Fusalpes dans les années 70, qui avaient fait des super chiffres, qui se souvenaient de ça. Les banquiers, enfin... Tout le monde avait envie de trouver ça bien, d'être avec nous. Il y avait une espèce de bienveillance autour
d'amour
de ce projet
de la marque folle, ouais.
Qui était mais tellement précieuse.
Et comment on trouve une marque comme ça à revendre? Ça se passe comment concrètement?
On traîne un peu. La chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y avait pas de process, il n'y avait pas de banque d'affaires dedans. Donc on s'est mis vraiment d'accord avec le propriétaire. En fait, il cherchait des investisseurs. C'est Alexandre Fouvet, d'ailleurs, notre directeur général, qui, à ce moment-là, qui nous avait apporté le projet. Il voulait des investisseurs minoritaires, en fait. Mmh. Et ils avaient fait un peu le tour de la place. Et tout le monde disait, bon, minoritaire, on ne sait pas. Et nous, on lui a dit, bon, non, nous, on veut bien être majoritaire. Et il nous a dit, ok, super, à ce compte-là, je vous vends et je suis contente de vous vendre à vous. Il préférait ça plutôt qu'un groupe de Chinois ou quelque chose qui était moins...
Ouais, que ça reste français.
Voilà. Ça lui plaisait plus, le projet.
Une famille qui est du textile,
oui. Oui, puis on s'est bien entendu,
il y a
un truc qui s'est passé.
Ouais.
Et voilà, donc c'était un peu... Mais ce qu'on a fait, quand on a vendu, il y a plein de gens qui venaient nous apporter des projets... C'était
forcément,
assez, voilà,
oui,
les gens nous ont sollicité.
Ça se savait, donc ils ont un peu de sous à réinvestir.
Exactement, donc les gens viennent voir. Mm. Mais ça, voilà, ça s'est fait un peu comme ça, de manière assez naturelle.
Et c'était quoi votre grille de lecture à l'époque pour faire votre choix final?
L'instinct, j'ai envie de te dire, tu peux mettre plein de grilles de lecture, plein de choses, mais à la fin, il n'y a que l'instinct qui compte.
Okay.
Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. À chaque fois que je ne l'ai pas écouté, je m'en suis mordu les doigts. Donc maintenant, j'essaye d'être un peu radical.
D'accord.
Faut le sentir. On a eu une vision, le produit nous a plu. On a compris ce qu'on avait envie de faire avec et on y est allé. Il faut avoir un peu d'insouciance aussi à un moment.
Ok, très bien. C'est quoi à l'époque l'état des lieux de Fusalpes?
C'est une petite entreprise qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Quand même, c'est pas rien non plus.
C'est pas rien non plus, non, quand même. C'est une entreprise qui a à ce moment-là 60... on a racheté donc en 2014, donc à 62 ans, qui vend essentiellement du wholesale, Intersport, Sport 2000... des produits, le cœur de l'offre, c'est des blousons à 300 euros, très beau rapport qualité-prix, qui s'achètent beaucoup pour les gens locaux qui ont besoin d'un produit de bonne qualité, mais sans un budget explosif.
Ouais.
Et donc, l'image de marque pas abandonnée, pas trop abîmée. En revanche, ils avaient abandonné le logo de base.
Okay.
Ils avaient un logo orange un peu bizarre. Et donc, nous, on a repris le logo bleu-blanc-rouge et on s'est dit, il faut faire du haut de gamme. On peut pas s'en sortir au milieu, on le sait. D'ailleurs, on voit les marques qui sont au milieu là aujourd'hui. Bon, c'est une catastrophe.
Ça veut dire quoi, haut de gamme?
Bah, haut de gamme, ça veut dire vraiment haut de gamme, quoi. Enfin, tu vois, à l'époque, c'était pas luxe, mais c'est oui, c'est d'un coup, on a doublé le cœur de l'offre était à 680-700 euros, plus à 350. On a doublé les prix.
Ouais.
Pas pour les mêmes produits.
Non,
on a modifié les produits. On a fait des produits plus haut de gamme qui nous ont semblé très authentiques, mais on pouvait pas s'en sortir en continuant dans ce positionnement-là.
Et quand vous...
Et ce qui était bien, pardon, c'est que notre première collection, ce qui nous est resté à la fin de l'année, c'est les entrées de gamme. Tout notre positionnement justement haut de gamme, on avait plus de stock, on avait tout vendu.
Les gens ont compris.
Et c'était complètement légitime pour la marque. Donc ça, c'était cool.
Et ça, c'est un pari quand même.
Bien sûr, c'est un pari.
La vision que vous avez quand vous rachetez la marque, c'est quoi? Je ne sais pas ce que vous aviez. Vous êtes fait un business plan, non? Vous êtes fait un vision board, un business plan, une roadmap à 20 ans, 30 ans? Non,
on a fait, pour nous, un business plan à 3 ans et puis on en a fait un 5 ans pour présenter aux banques. Voilà, ouais. Mais la réalité, c'était un business plan à 3 ans. Et en fait, en vrai, moi, mon vrai business plan, il est à 2 ans. Surtout aujourd'hui, on est dans un monde qui est très, très chaotique. Donc, c'est compliqué. Évidemment, on projette quelque chose, mais le plan, il est sur 2 années. Il n'est pas sur, pas sur beaucoup plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu rachètes cette vieille endormie où tu vois les blousons à l'Intersport du coin, à Annecy ou à Chambé ou en station, il faut avoir une big picture ou une vision qui te fasse kiffer, quoi. Et c'est quoi? C'est devenir le nouveau, je sais pas, Montclair, etc. C'était quoi la...
C'est se dire que cette marque est une marque qui vient du ski, mais qui a une vraie parole pour l'urbain, qui a une vraie parole sur toute l'année. En fait, c'est une conversation entre la technicité et le style. Et donc ça, tu peux l'adapter à beaucoup de choses. Tu vas acheter parce que c'est un produit technique de très grande qualité, avec un confort, une aisance, une respirabilité, mais tu vas surtout l'acheter parce que tu trouves que c'est cool et que c'est beau et que tu vas pouvoir le garder très longtemps et que ça va rester cool et beau pendant longtemps. Donc c'est vraiment la conversation entre ces deux choses-là. Et donc à partir du moment où tu parles de là, ça s'applique à beaucoup de choses. On travaille beaucoup, nous, sur les petites vestes que tu peux mettre sur un manteau en hiver, et après tu la mets. Le changement climatique, ça demande une adaptation en fait des thermies des vêtements hyper importante. Tu pars le matin, il fait 5 degrés, l'après-midi il fait 17, t'as besoin de vêtements qui prennent ça en compte. Voilà, et donc ça tu peux l'adapter à beaucoup de choses. C'est ça notre vision, de se dire que c'était une marque qui avait un potentiel international fort, très fort, qui avait une identité extrêmement forte, et que nous en tant que Français on a une esthétique qui peut vraiment prendre la parole
et une légitimité. C'est ça.
Une légitimité et puis aussi un style, en fait. On a, la France, c'est une espèce de sobriété, de silhouette, tu vois, de couleur qui est hyper intéressante à revendiquer. Et puis, un usage qui peut être extrêmement ouvert des produits. Et donc, par là, oui, quand on a racheté, on s'est dit, c'est une marque qui a le potentiel de faire 200, 300, 400 millions d'euros sans problème. Et je le crois toujours.
Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes à combien?
On est à 60.
60 millions.
Donc, c'est encore le chemin est encore long.
Ouais, mais c'est pas mal quand même. On commence par quoi concrètement là, pour dérouler cette vision? Il y a tout un travail de rebranding, de l'offre, etc. C'est quoi les grands chantiers qu'on ouvre? Et surtout, on les ouvre tous en même temps?
Oui, alors pas tous non plus, parce que quand on reprend, on est 30, une mini-équipe, voilà. Ce qu'on fait, en fait, c'est évidemment, c'est récupérer le logo d'origine pour qu'il soit là, c'est travailler sur la plateforme de marque, évidemment, les valeurs, tout ça, travailler sur les produits pour qu'ils soient extrêmement identitaires, et puis travailler sur la distribution.
Ouais. Ouvrir des boutiques. En wholesale, voilà. Là, vous passez en direct.
On ouvre des boutiques. Et puis, voilà, première opération de communication, travail avec Colette, où on a développé toute une capsule pour vraiment montrer au monde qu'on existait. Et tout ça, ça s'est aligné de manière assez organique, puisque la marque avait une identité très forte.
Et qu'est-ce que vous avez mis de plus dans la marque, si on peut dérouler dans les grandes lignes la plateforme de marque, concrètement, comment est-ce qu'on fait un branding d'une marque comme ça? Enfin, comment est-ce qu'on la la refresh, quoi.
Mais justement, l'idée, c'est pas de la refresh. Ouais. L'idée, c'est d'aller aux racines de la marque.
Revenir aux racines.
Qu'est-ce que Suzal ? Suzal, qui est l'âge d'or de Suzal, c'est les années 60, 70, beaucoup, beaucoup d'insouciance, donc une certaine liberté. On parle de, voilà, de liberté, d'agilité. Et en même temps aussi, c'est des vêtements techniques qui rendent capable, qui mettent en puissance, en fait. Quand on met une combinaison de ski,
on se sent plus fort.
On se sent plus fort. J'ai l'impression d'être Wonder Woman, un peu avec ma combinaison, d'avoir une armure. Et comment des vêtements dans ta vie tous les jours, en fait, te rendent capable. C'est important ce que tu portes pour aller voir les gens. C'est pas juste l'image que tu renvoies, évidemment, mais c'est à quel point quelle aisance tu as, comment c'est structurant, tu te sens bien porté en fonction de ce que tu as à faire, de qui tu es. Et c'est très important. Et nous, on est au service de ça. Ce qui est intéressant avec Suzalp aussi, c'est que c'est une marque, et qui est toujours, je crois, et qui l'était quand on l'a rachetée, plus forte que son business. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que Suzalp fait beaucoup plus que ce qu'elle ne fait en vrai. Et ça, c'est une énorme chance, parce que parfois on a l'inverse, on a un business qui est plus fort que la marque, et là tu cours après pour essayer de légitimer ton business. Là, on a une marque qui a une légitimité qui est énorme, qui se comprend bien. Donc à nous, après, au travers des collections, d'arriver à avoir cette lisibilité qui permette que les clients comprennent ce qu'on cherche à faire et aient envie d'y adhérer.
Trop bien. La distribution, vous coupez le wholesale ?
Non.
Non.
Non, alors, on a augmenté le niveau de prix. Donc forcément...
Tu perds plein de gens.
On perd plein de clients qui, du coup, achetaient des blousons. Je te dis, le cœur de l'offre était dans les 300, 320, 350, mais on commençait à 160, quoi. Donc, pour un blouson. Donc forcément, tous ces blousons-là, on a arrêté de les faire. Donc, il y a toute une clientèle qui ne se reconnaissait pas dans ses besoins. Donc, voilà. Mais il fallait qu'on vive comme ça.
Et dans l'offre, concrètement, vous faites quoi ? Vous gardez la partie ski, qui était vraiment l'offre à
Bien
l'époque.
Bien sûr, on la monte.
On la monte.
Et pareil, l'urbain, on le développe. On cherche les bons manteaux où on ait une légitimité. Il ne s'agit pas de faire des costumes trois pièces, quoique maintenant, on fait des costumes techniques pour hommes qui sont hyper beaux. On a ici un atelier de patronage, donc on a des costumes qui sont parfaits en matière technique, que tu peux froisser, que tu mets à la machine et qui, pour voyager, sont hyper agréables. En été et en hiver, donc on arrive même à faire ça, mais au départ c'est vraiment ça, c'est trouver l'identité sur l'urbain, le développement urbain, et la première boutique qu'on ouvre d'ailleurs, c'est à Paris, c'est dans le Marais, rue des Blancs Manteaux, ça ne s'invente pas, mais c'est pas, et en parallèle on ouvre une boutique à Courchevel, un petit pop-up, voilà, et à Verbier aussi, mais la première boutique, la vraie boutique, c'est Paris, parce qu'on voulait absolument affirmer ça, le fait qu'on était une marque qui avait sa place en ville, et d'ailleurs elle a explosé notre budget la première année, ça s'est vraiment super bien passé.
Trop bien. Le web ?
Le web, bien sûr, c'est un gros sujet pour nous. Aujourd'hui, on a 70% de notre chiffre d'affaires, c'est les boutiques, 15% c'est du wholesale et 15% c'est du web. Donc le wholesale, tu vois, c'est pour nous aujourd'hui un gros sujet de développement, vraiment. Et le web, on a eu beaucoup de mal, on s'est beaucoup amélioré cette année, je trouve qu'on a une équipe qui est formidable.
Pourquoi c'était difficile ?
Je sais pas, je suis pas la plus grande experte sur ces sujets-là, mais j'ai l'impression que c'était difficile de trouver les bonnes équipes. C'est un système, on a aussi un consultant qui nous aide beaucoup. C'est un système ça devient tellement complexe. Les coûts d'acquisition sont devenus de plus en plus inabordables. Donc, il faut vraiment être malin au milieu de tout ça, être toujours à la pointe de ce qui se fait, être hyper agile. C'est des postes qui sont très demandés. Donc, les gens sont très conscients de leurs valeurs.
Ouais.
Et parfois, la survendent un peu. Ils n'ont pas forcément cette agilité-là. Aussi simple à faire. Nous, on est une petite marque, Suzalp. On n'a pas des budgets de communication digitale incroyables. Évidemment, pour nous, c'est des très gros budgets, mais par rapport à d'autres marques, c'est rien du tout. Donc, forcément, quand il faut te démêler dans cette mer, dans cet océan d'informations pour arriver à promouvoir ton site e-commerce, il faut être sacrément agile. Et je pense que c'était surtout une problématique d'équipe. Et là, maintenant, on a une équipe qui est vraiment incroyable. Donc, on a beaucoup progressé.
Et aujourd'hui, il y a aussi quand même la nature du produit où quand tu investis dans une veste à 700, 800 euros, tu as envie de la voir, la toucher, la tester, etc. Il y a ça, mais aujourd'hui, vous arrivez à les vendre maintenant.
Oui, je pense qu'on fera jamais 50% de notre chiffre d'affaires sur Internet, tu vois. Bon, mais après, c'est des gens qui connaissent la marque, qui connaissent leur taille. On vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de pantalons, par exemple, sur Internet, évidemment, et qui vont faire... Alors peut-être le premier achat se fera pas... Ou alors des gens qui peuvent être loin d'un magasin Fusalp. Mais je pense que c'est... On doit pas avoir beaucoup de premiers achats sur Internet.
Ouais.
Mais en revanche, après, tu as les collaborations aussi qui amènent une désirabilité sur Internet un peu plus importante. Enfin, voilà.
Trop bien. Donc, l'orchestration... Vous allez chez Colette, vous rencontrez Sarah et elle vous apporte une certaine légitimité.
Totalement.
Et vous met sur la carte du monde de la mode, quoi. Moi, j'aime bien revenir sur les milestones de la marque, là, sur ces 12 ans. Non, ça fait 11 que vous êtes là, je veux dire.
Qu'on a repris, ça fait. Non, ça fait 10 ans.
10 ans. Mmh. En 10 ans, c'est quoi les grands moments d'accélération ou ces grands moments qui ont été des tipping points, je dis ça en anglais, mais des moments de bascule, des moments où vous avez senti que ça prenait et que ça partait?
Le premier grand moment, c'est la boutique des Blancs Manteaux.
Ouais.
C'est certain, c'est l'opening et après son bon résultat. C'est vrai qu'on a ouvert 2 semaines avant les attentats du Bataclan, donc en termes de tourisme, ça a été d'un coup... pour le Marais, ça a été assez compliqué, mais il y a quand même eu des très beaux résultats dans la boutique. Cette collection où n'est resté que les entrées de gamme, donc on s'est dit il y a une validation de ce qu'on voit. Donc ça déjà c'était un soulagement très
énorme,
important,
ouais.
Très très important. Donc ça a été une première étape. Je dirais que l'autre grande étape, c'est l'ouverture de la boutique de Londres. Parce qu'on avait déjà ouvert des boutiques en Suisse. Tu sais, nous, le siège est à Annecy. Donc, la Suisse, c'était bon, évident. Et puis, c'est la montagne, les Alpes, tout ça. Donc, qui commençait à bien marcher. Mais Londres, d'un coup, tu te places sur la carte du monde. Quand tu es une marque française, tu as tes boutiques en France, un peu en Suisse.
Vous en aviez combien déjà à l'époque ?
Je me souviens plus. Je saurais plus te dire combien de boutiques on avait à ce moment-là. Mais le fait d'ouvrir à Londres, c'était pour nous une porte vers le monde. Et pareil, boutique, qu'on a cherché un emplacement un peu malin, parce qu'on n'avait pas les moyens d'ouvrir sur King Street ou je ne sais pas où. Et du coup, on a ouvert dans un endroit très résidentiel, avec une population très fortunée, entre Chanel, Orval Brown, les baskets, tu sais, avec les étoiles là. Canada Goose,
ouais.
Voilà. Et dans un quartier comme ça, très spécifique, et de voir que la boutique marche bien et que des personnalités internationales venaient, c'était pour nous extrêmement important et ça nous a vraiment ouvert le monde. On a ouvert la Corée après. Là, on vient d'ouvrir les États-Unis. Donc, ça nous a vraiment permis, quand je dis ouvrir, c'est avec des boutiques en propre, hein, parce que le wholesale travaille quand même. Mais ça a été des étapes très importantes.
Ouais. Quelle est la part de wholesale aujourd'hui?
15%.
15%, ouais, c'est tout petit, mais vous continuez. Pourquoi c'est important de continuer le wholesale?
Mais je pense qu'on va le développer même. On cherche à le développer beaucoup plus. On avait besoin de cohérence dans nos collections, et pour ça, il fallait avoir du volume, et pour ça, il fallait avoir des boutiques, parce que les wholesalers ne vont pas te permettre de développer des choses un peu différentes. Mais là, maintenant, oui, le wholesale, c'est très important, parce que c'est un canal de distribution majeur qui, je pense, prend encore plus de force en ce moment, puisqu'il a été, il y a eu cette énorme puissance du retail monomarque qui s'est développée. Et là, on en revient un peu. Donc, y a un vrai sujet sur le curating des acheteurs, enfin, sur tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire.
Et aujourd'hui, vous êtes dans un positionnement wholesale de quoi? C'est plutôt des marques de sport ou des concept stores? C'est quoi l'idée que vous avez
Non, c'est beaucoup de grands magasins.
Ouais.
Tu vois, Harrods, Selfridges, des grands magasins.
Ouais.
Exactement. Beaucoup, beaucoup de grands magasins. Et puis, non, nous,
avec
on se positionne...
Avec des corners
Oui. Alors, quand c'est des concessions, pour le coup, pour nous, c'est comme du retail. Et parfois en wholesale, donc dans des zones spécifiques où ils montent une partie de certaines collections. Mais aussi, non, on va pas dans le sport, on va pas dans des multimarques sport, très très peu. Il faut vraiment qu'ils soient très haut de gamme. Nous, on se positionne dans le luxe clairement aujourd'hui. Les boutiques qui marchent très bien, c'est quand elles sont entourées de Gucci, Prada. Et voilà, si je suis la plus chère de la rue, c'est plus compliqué. On a besoin de définir ça pour avoir une vraie désirabilité et pour s'en sortir, hein, tout simplement. Parce que si on se met encore une fois dans le milieu de gamme, on s'en sort pas. On est trop petit pour ça.
Ok. C'est qui vos concurrents ? C'est Chanel et toute la clique ?
Non. Nos concurrents, c'est une question d'occasion de porter. Donc, sur le ski, on a des marques très spécifiques comme Colmar, comme Bogner, comme Goldberg, tu vois, des Perfect Moments, qui ne sont pas forcément dans les mêmes positionnements prix, qui peuvent être un peu moins chers que nous, mais qui ont une certaine identité.
Ouais.
Dans l'urbain, oui, là, forcément, on va être face à Moncler, aux gens qui font des manteaux ou des choses comme ça.
Trop bien. Les autres milestones de la marque, là, tu disais, vous venez d'ouvrir les États-Unis. Vous êtes placé où ?
Alors, on a une boutique à New York. C'était très important pour nous d'ouvrir à la fois New York et le ski. Donc, ouais. On a une boutique sur Madison Avenue, Upper East, là-bas. Et puis, on a ouvert à Aspen et à Vail, dans le Colorado, qui sont deux très belles stations de ski américaines, pour avoir cette double présence. Et c'est un peu la même population qui va dans les trois endroits.
Okay.
Et du coup, qui puissent nous voir. Tu sais, c'est comme la pédagogie, il faut voir plusieurs fois pour se dire qu'on connaît.
12 et... points de contact, non,
exactement.
C'est quoi la règle ?
Voilà.
Autant, ouais, le plus possible. Juste pour revenir sur sur le produit et sur l'offre, y a cette idée voilà, fonctionnelle pour la station, mais aussi pour la ville. J'imagine qu'il y a une élasticité prix qui est assez large aussi pour pouvoir toucher tout le monde.
Oui. Mais haut de gamme quand même. Oui, ouais. Mais on n'oublie pas non plus les entrées de gamme. Enfin, voilà, on a une base qui est très importante aussi.
Très bien. En termes de, tu parlais de collaboration tout à l'heure. Vous avez fait pas mal de collabs pour, comment t'abordes les collaborations? Avec qui vous avez fait des collaborations? Pourquoi c'est important de faire des collaborations?
Alors, c'est important pour ouvrir l'imaginaire autour de la marque, pour ouvrir le champ des possibles, pour évidemment rencontrer des clients qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Et puis, pour avoir une force vive un peu au travail. On a travaillé, les collaborations qu'on a faites, c'est pas mal aussi des rencontres avec les gens, la manière dont on travaille avec eux. Donc la première collaboration qu'on ait faite de marque, c'était avec Chloé, qui a été un très gros succès pendant 2 ans. Puis on a fait là avec Pucci pendant 2 ans.
Okay.
On a fait une collaboration avec Zenith parce que pour nos 70 ans, on voulait faire une belle montre. Donc on a eu la chance de faire cette collaboration qui était très belle. Et puis voilà, après on a collaboré avec un artiste qui s'appelle Arino Reyev à l'automne dernier.
Que j'interview bientôt.
Ah, formidable.
Quand tu dis que vous faites des collaborations avec Chloé, etc., c'est pendant 2 ans, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous dessinez, vous co-créez un produit ensemble
ouais.
Et vous le vendez en boutique pendant 2 ans ?
Non, alors on a fait 2 collections, c'est-à-dire ouais. qu'on a fait deux sujets, mais on s'est dit que ce rythme de 2 ans est pas mal parce qu'en fait, le temps que les gens se rendent compte que la collaboration existe, elle est finie, donc au moins la deuxième année, on peut quand même plus bénéficier du travail collaboratif, sinon c'est un petit peu vain.
Ouais.
On peut parler aussi de toutes les problématiques de RSE, hein. Pour nous, c'est des sujets hyper importants.
Et
c'est une vraie question de savoir en fait la durabilité d'un vêtement.
Ouais.
Tu vois, moi je veux qu'un vêtement fasse 3 générations, clairement.
3 générations.
Ouais. On soutient pas mal de jeunes sportifs qu'on habille plutôt dans leur vie quotidienne parce qu'ils sont souvent déjà équipés pour leur compétition. Mais on fait des séances de coaching, enfin on a fait un petit team fusable comme ça. Et on a un jeune homme à Oslo qui s'appelle Kaspar Kinden, qui est très très fort, qui fait partie des meilleurs de sa génération. Et un jour, on est allé à Oslo et on se dit, c'est dommage, on a oublié d'appeler Kaspar, ça aurait été trop sympa de prendre un café avec lui. Donc, en atterrissant là-bas, à dernière minute, on lui dit, tiens, on est à Oslo aujourd'hui, est-ce que tu aurais 5 minutes pour prendre un café ? Et donc, il nous dit, écoutez, oui, très bien, je viens. Et là, il arrive tout gêné en nous disant, je suis désolé, je suis partie de chez moi, je savais pas que j'allais vous voir, j'ai pas mis le blouson que vous m'avez doté, quoi. Enfin, voilà, donc il était un peu gêné, mais j'ai mis mon blouson préféré qui appartenait à mon grand-père, qui se trouvait être un blouson Fusalp.
Trop drôle.
À son grand-père, parce que ça, en Scandinavie, Fusalp marchait très bien dans les années 60-70. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment une leçon de vie, en fait. Je veux que les petits-enfants de mes clients aient toujours envie de porter leur blouson. Tu vois, que cette doudoune... Ada, elle soit portée par la petite fille de la personne qui va me l'acheter. Et donc ça, c'est hyper important, cette durabilité. Et c'est vrai aussi pour les projets. Mmh. C'est-à-dire que d'avoir, et dans le théâtre, tu vois, c'est quelque chose qui pour moi est très important aussi, mais dans les projets de collaboration, avoir toute une équipe qui travaille pendant 6 mois, 1 an sur un truc qui va durer 2 mois,
ça n'a aucun sens.
C'est débile, en fait, je trouve. Donc, au moins, on le fait durer 2 ans, parce que la deuxième collection, on la travaille, c'est une continuité de la première, donc c'est quand même pas le même travail. Ça fait que tous nos efforts en communication, bah, du coup, payent pendant 2 ans. Enfin, ouais. Y a toute une énergie. On n'a pas envie non plus de se marier jusqu'à la fin de nos jours, mais au moins, ça, c'est quand même un peu un mariage de moyen terme. Quoi.
Comment vous choisissez les collaborations? Parce que quand tu dis Chloé Pucci, c'est quand même des grosses marques. Harry Nourieff, est quand même beaucoup plus incognito. Enfin, là, après, quand vous prenez Harry, j'imagine que vous allez chercher peut-être une clientèle différente, quoi.
Oui,
qui est un
en
peu
fait,
plus fashion,
c'est
quoi.
Exactement. Et puis, c'est pas du tout le même type de collaboration avec une marque qui a vraiment une volonté d'avoir un bénéfice commercial, de vendre ensemble, on trouve chacun du positif dans la collaboration. Et puis, on s'associe à une grosse marque pour qu'elle ait une puissance. Ouais. De monstration, de développement qui soient intéressantes. Harry Nourieff, c'était vraiment pour l'ouverture de notre boutique Avenue Georges V, qui pourrait être un moment très important, puisque c'est vraiment cette ouverture pour moi est une vitrine à l'international. On l'a faite évidemment pour la boutique, qui fonctionne super bien, qui est extrêmement bien placée, mais aussi pour pouvoir montrer, quand on va faire des négociations, tu vois, en Corée, dans un grand magasin, où j'explique aux gens, moi, ma boutique, je la veux là, à l'étage luxe, et entre ces marques-là, et qui me disent, bon, mais moi, je suis venu à Paris, j'ai vu ta boutique rue des Blancs-Manteaux, Courcelles, elles sont sympas, mais c'est pas, tu me montres pas un truc fou. Et bien là, avec l'avenue Georges V, je leur montre, oui, voilà, nous, c'est ça qu'on veut faire et c'est ça qu'on est capable de faire. Donc, c'était très, très important de le faire là. Et donc, du coup, la collaboration avec Harry avait été initiée bien avant ça, parce que on l'a rencontré, moi je l'ai rencontré, et on s'est super bien entendu, et j'ai eu envie de travailler avec lui. Et après, l'équipe l'a trouvé super, et tout le monde s'est dit, ouais, super, faisons un truc. Et quand on a ouvert Georges V, on s'est dit, on va le faire à ce moment-là. Il a fait toute une capsule, parce qu'à la base, Harry, c'est quand même un designer de mobilier. On va faire toute une capsule avec de la réalité virtuelle, et ces produits qui sont hyper pop, hyper rigolos, en léopard rose pixelisé, très très fort. C'était pas une volonté de succès commercial, c'était vraiment une prise de parole avec un artiste qui commence à avoir bien émergé, mais qui est comme ça. Donc c'était pas du tout le même sujet. Les vrais sujets de collaboration marque, c'est Chloé Pucci, vraiment.
Vous en avez prévu d'autres comme ça, des importantes?
Écoute, on y travaille. On n'en aura pas l'année prochaine, je pense, parce que on n'a rien trouvé qui nous satisfaisait suffisamment. Mais on a quelques idées pour l'hiver d'après.
Ouais. Et là, on partage la marge. Enfin, comment ça fonctionne une collab dans ce genre?
Oui, tout à fait. En fait, chacun vend ses produits et on partage. Voilà. Okay. Il n'y a pas de royalties ou de choses comme ça. Tu vois, on se met tous au travail et puis et on vend ce qu'on peut et c'est bien.
Trop bien. Vous disiez que tu as une ambition de 300, 400, 500 millions. Comment on arrive à ça, en fait? C'est quoi la stratégie?
Chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Tu vois, la montagne est très haute, mais déjà, je regarde l'étape d'après. Donc, moi, je suis à 60. Comment je fais pour arriver à 100, 120? Ce qui est un autre monde. Tu dis souvent le cap des 50, 60 millions pour une entreprise, en tout cas dans notre secteur, c'est vraiment un cap.
Donc, déjà, comment on arrive à 50 ou 60? C'est déjà, moi qui suis à 1, comment je fais?
Oui, mais toi, tu vends pas des produits.
Si, moi, je vends des produits.
Tu vends des produits? Ah oui, c'est vrai que tu as ta marque.
J'ai une marque réunie,
C'est vrai, pardon, excuse-moi, j'avais oublié.
Ouais. Comment on fait pour aller à 60?
Écoute, c'est de la distribution.
C'est de la distrib.
Beaucoup de distribution.
Une gamme de produits assez large.
Voilà.
C'est donc, combien de SKU aujourd'hui?
Là, aujourd'hui, on en a trop, puisque sur une année complète, on est aux alentours de 660, tu vois.
660.
Donc, là, notre travail en ce moment, c'est de réduire. C'est de réduire, de passer à aux alentours de 500 pour l'année. Et donc, de réfléchir à la collection sur une lancée beaucoup plus annuel, j'ai envie de te dire. C'est de dessiner quelque chose qui trace une année, d'être moins hiver, été. Parce que nous, c'est beaucoup l'intersaison, les sujets aussi. Comment on arrive à nourrir, en fait, parce qu'on a quand même un chiffre d'affaires qui est très saisonnier. Donc, comment on arrive à nourrir la fin de l'hiver, à avoir des produits qui soient suffisamment intéressants, suffisamment légitimes. Donc, c'est un tracé un petit peu différent de ce qu'on peut penser dans la mode créateur, beaucoup plus normalisé. Nous, il faut qu'on soit un petit peu différent là-dessus pour arriver à tirer notre épingle du jeu. Avoir des produits qui soient plus durables aussi, moi, pareil. Tu vois, évidemment qu'on a des animations qui vont durer qu'une saison. Mais il faut que ça soit assez minimal, en fait, que le gros de la que des pièces puissent vivre 2 ans, 3 ans, et qu'on réfléchisse de manière beaucoup plus intelligente les process de fabrication et de conception.
D'accord. Il y a quand même cet enjeu de ce qu'on n'achète pas une combi tous les ans, quoi.
Non.
Et justement.
Il y en a, heureusement pour nous.
Mais... Oui. Mais il y a aussi, et puis il y a cette idée de transmettre sur 3 générations. Si tu vends un manteau toutes les 3 générations, tu vas pas t'en sortir, quoi. Comment est-ce qu'on crée du repeat? Parce que pour aller de 60, enfin, déjà de 1 à 60, il faut quand même créer pas mal de repeat. Et de 60 à 100, enfin voilà, pour augmenter, quoi. Et il va falloir, renouveler et faire en sorte que les clients repassent à la caisse plusieurs fois dans l'année, quoi.
Exactement.
Comment on fait ça?
Déjà, c'est aussi le passage du ski à l'urbain. On a le prêt-à-porter homme fonctionne. On est très 50-50 dans nos chiffres d'affaires. Le prêt-à-porter homme fonctionne un peu mieux que la femme.
OK.
Parce que c'est des vêtements plus rassurants. Enfin, voilà, on est beaucoup sur l'archétype du vestiaire masculin. Et donc, les hommes viennent nous acheter un manteau, des pulls. On travaille beaucoup sur les pulls. On voudrait vraiment développer sur cette catégorie de produits. C'est tous ces produits-là qui sont possibles déjà d'acheter. T'achètes pas qu'un manteau ou un blouson. En effet, renouveler l'offre, apporter vraiment une valeur ajoutée en termes de style, en termes de fonctionnalité aussi, pour pouvoir avoir envie profondément d'acheter quelque chose de nouveau qui soit juste pour soi. Toujours Mathilde parle beaucoup du produit juste. Elle cherche le juste, en fait. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais quand tu le trouves, tu peux capitaliser dessus pendant un bon moment.
Mathilde, qui est ta belle-sœur et
directrice
artistique de Fusalp, et qui était directrice artistique de Lacoste. Sustainability, la responsabilité, comment est-ce que tu... Il y a quand même ce truc, le mieux serait de ne pas faire de produit, quoi. Concrètement.
Comment... C'est compliqué.
Et quand on a une marque de mode, et j'en ai une aussi, donc j'ai ma part de responsabilité, comment est-ce qu'on avance sur ces sujets-là?
Pas à pas, en étant accompagné par des gens qui comprennent bien, qui ont de l'expérience sur ces sujets-là. Et je pense en responsabilisant vraiment les métiers, que ça se fasse partie intégrante de leur quotidien. Les gros sujets, alors évidemment, on peut améliorer beaucoup de choses, mais les gros sujets pour nous, c'est des sujets de production, de fabrication, de matériaux. Comment on arrive à évoluer là-dedans et à être bien au courant de tout ce qui se fait pour pouvoir attraper les innovations au moins elles se font. Pas trop tôt non plus, parce qu'on est tout petit, nous. Donc, quand tu as tout un produit que c'est notre best-seller et que tu as un vrai problème dessus, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on arrive à tester quand même un minimum. Mais il faut être très, très agile sur ce qui se fait pour arriver à avoir des objectifs qui soient atteignables, mais dont les équipes soient responsables. Si tu as quelqu'un qui vient expliquer à quelqu'un dont c'est le métier, écoute, en fait, non, tu vas pas faire ça comme ça, et puis dans 2 ans, je veux tel objectif, le professionnel en face va te regarder en disant, bon, t'es mignon, mais t'y comprends rien, donc l'objectif n'existe pas. Si tu lui demandes vraiment de participer à l'élaboration de cet objectif en fonction de sa connaissance du métier, mais aussi l'apport de quelqu'un d'autre qui va pouvoir lui parler de ce qui se fait autour, de toutes les contraintes réglementaires, de la réalité du marché, t'arrives à avoir un partenariat qui fasse que ça avance vraiment. Parce que c'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment faire avancer les choses? Et je suis d'accord avec toi, le mieux ce serait de pas consommer, mais on va quand même avoir besoin de s'habiller malgré tout. Et comment on arrive à servir ça de la meilleure manière?
Très bien. Vous cherchez à devenir B Corp en termes de certification, vous êtes comment?
Alors, on est signataire du Fashion Pact, évidemment.
Seconde main, est-ce que c'est quelque chose que vous allez intégrer à un moment donné?
Le Bicorp?
Enfin, Bicorp, oui, mais le seconde main aussi, je disais.
Oui, le seconde main, pardon. Oui, le seconde main, bien sûr, c'est un vrai sujet. Faudra qu'on le traite. Il est dans la to-do. Mais je ne suis pas sûre que ça soit... parce qu'il y a des gens qui disent que ça peut être une alternative, en fait, en termes de business. Moi, j'y crois pas énormément, mais évidemment qu'il va falloir travailler sur le sujet et il y a beaucoup de gens qui commencent à devenir très spécialistes de ce sujet-là. Donc moi, je le ferai pas toute seule, évidemment. Je vais m'appuyer sur des gens qui le font. Mais c'est dans les sujets à traiter, évidemment, dans les mois qui viennent. Voilà.
Et le Bicorp, tu crois, tu crois pas, tu...
Moi, je suis très dubitative sur ces sujets-là. Je pense que, je suis très impliquée dans tout ce qui est projet philanthropique depuis très longtemps. Je pense que l'objet d'une entreprise, pour moi, fondamentalement, c'est pas d'apporter des dividendes à ses actionnaires, c'est de faire grandir l'intégralité des parties prenantes et pas seulement d'un point de vue financier. Donc pour moi, le fait que l'objet d'une entreprise, ce soit pas d'apporter du bas de bilan, c'est total, c'est évident. Il faut être profitable pour pouvoir exister, pour pouvoir investir pour pouvoir beaucoup de choses, mais c'est un outil, c'est pas la finalité de l'entreprise. Donc, aller faire toute une certification B Corp, moi je fais des vêtements en plus, alors je vais pouvoir dire que je l'ai fait le mieux possible, beaucoup de choses, mais que j'ai pas d'impact, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de mal, c'est comme les entreprises à mission, hein, je vais me faire taper dessus, mais je vois pas en fait la nécessité de faire ces chemins-là, d'accroître les problématiques réglementaires. Je pense que il faut avancer de manière authentique, ambitieuse et sereine. Voilà, c'est pas la peine de se mettre des pressions de fou sur des choses qui ne sont pas au centre de la réalité. Et voilà. Donc pour moi, c'est pas un enjeu.
Vous produisez où aujourd'hui ?
On produit beaucoup, une bonne partie en Asie. Je pense qu'on doit être à 60% de notre production en Asie. On a beaucoup de matières coréennes, japonaises. On est dans des entreprises, dans des usines qui sont extrêmement haut de gamme, parce qu'on fait des vêtements qui sont très complexes. Ce qui est moins compliqué, on arrive à le faire en Europe, mais ce qui est le plus compliqué, on n'y arrive pas.
Dès que c'est technique, c'est l'Asie. On a perdu les savoir-faire en Europe.
Oui, et puis les usines qui les ont encore, en fait, sont déjà complètement sous l'eau, donc sont pas forcément intéressées pour nous prendre.
Ok. Ah ouais, malgré toi tu dis vous êtes encore petit, mais c'est dans le paysage vous êtes pas si petit quand même. Enfin,
on est minuscule, tu veux dire. Si tu as vu la taille des autres, c'est voilà, on est sur une petite barque. Les pays à côté, c'est devenu que des paquebots. Donc c'est compliqué. Tu parles de Moncler, de Canada Goose, d'LVMH, de Kering. Enfin, c'est des énormes entreprises. Elles font des milliards de chiffres d'affaires. Donc, nous, à côté, on est vraiment petits face aux usines. On a envoyé. Et puis, nous, un blouson de ski, ça peut aller jusqu'à 90 éléments différents. T'as pas la même poids de garnissage sur le cœur que sur le ventre. C'est pas le même garnissage dans les manches. C'est très, très complexe. On a envoyé des pièces dans certaines usines en Europe. Ils nous les ont renvoyées en disant non, mais on va pas faire ça, en fait.
Surtout pas.
Alors, à nous aussi de concevoir des pièces qui puissent être conçues, qui puissent être fabriquées en Europe, mais on ne va pas non plus abandonner toute notre spécificité et, et ce qui fait, en fait, le bien-aller d'un produit Fusalp pour quelque chose qui n'est pas réaliste.
Au démarrage, d'ailleurs, quand vous avez repris la boîte, vous aviez pas autant de SKU, on est d'accord. Au démarrage, vous en aviez une centaine, 200 peut-être.
Peut-être 300. Ouais.
Et parce que le sujet souvent du démarrage, c'est les minimums de quantité. Et quand on fait des vestes comme ça, je me dis, de toute façon, aujourd'hui, on les connaît les minimums de quantité, mais ça monte vite dans les tours en fait. Comment vous avez géré cette transition en fait au début où vous deviez vous stocker peut-être un peu trop?
Non, mais on a toujours ce problème-là. Hein. C'est pour ça aussi qu'on veut limiter les SKU, parce que nous, tu vois, des pièces... Alors, on a nos best-sellers, mais nos best-sellers, on en vend 3000 pièces. Hein. C'est pas...
Oui, vous n'en vendez pas 100 000. Ouais.
Non, donc ça reste... mais ce qu'on fait, c'est qu'on accepte des surcharges sur des pièces qu'on ne veut vraiment pas produire trop. Il faut être capable d'accepter des surcharges. Donc, du coup, ça fait une marge qui est très réduite, mais... Bon, en se disant qu'on va progresser toujours, mais on est toujours face à ces problématiques-là. Et de plus en plus, parce que les usines deviennent par exemple, les minima matières deviennent de plus en plus importants. Enfin, voilà. Parce que nous, les matières sont faites pour nous, la majorité du temps.
Et ouais, et ouais, les minimums de commandes de matières, c'est aussi...
c'est très très important, ouais. Ouais.
J'aimerais bien comprendre ta... À quoi ressemble, c'est vraiment très personnel comme question, et c'est une question que je pose souvent aux gens qui sont plus chiffres, etc. Tu vois, récemment j'interviewais Emmanuel de Experience Capital, je sais que t'es assez proche d'Eli Kobi, de Frédéric Bius, etc. Et on parlait d'une marque de mode aujourd'hui, à quoi doit ressembler la marge brute et l'EBITDA, tu vois. Et c'est quoi l'objectif qu'on doit avoir quand on monte une marque de mode ou de produit, mais une marque de mode. Quoique Experience Capital, comme ils font du karaoké jusqu'au restaurant, passant par la mode, etc., ils ont finalement une réponse assez la même pour tous, en fait, tous les business. Toi, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi tes objectifs de marge brute et d'EBITDA quand on est en développement aussi intense comme ça?
Il a dit quoi, Emmanuel, sur les objectifs?
70-80% marge brute et 20% d'EBITDA.
Je vais te dire pareil. C'est ça que j'allais te dire. Les objectifs, c'est dans les 80, même un peu plus de marge brute. Ça dépend de ta distribution, si t'es plus wholesale, si t'es plus... voilà. Mais et puis 20% d'EBITDA, ouais. Ce qui peut être assez ambitieux. Hein. T'as des gens qui disent que dans notre... on n'y est pas, ambitieux. Nous, 20% d'EBITDA. Mais t'as des gens qui disent que dans notre univers, c'est plutôt du 11-12. T'as des gens qui disent que c'est évidemment 20. Bon... sûrement que la vérité doit se situer au milieu, mais moi je veux me mettre comme objectif d'atteindre un jour 20% d'EBITDA, parce que je pense que c'est là où l'EBITDA, c'est la liberté, en fait. Donc t'as besoin de cette liberté là
pour s'autofinancer,
pour pouvoir mener les projets. C'est la seule chose qui, c'est la seule soupape que t'es. Alors il faut que l'EBITDA soit relativement cohérent avec ton cash, parce qu'en fait la vérité, c'est le cash, c'est pas ce qui est écrit sur un document. Mais bon, d'avoir un bon EBITDA, c'est ce qui te permet d'être libre. Donc 20%, je pense que si jamais j'arrivais un jour à 20%, je crois que le max qu'on ait fait, c'était 16.
Et pour avoir une marge brute de 80%, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir des coiffes qui soient quand même assez élevées, parce que t'es entre ton wholesale, ton retail, ton e-commerce, et puis potentiellement quand tu vends en solde, etc., il faut avoir un coiffe qui soit haut, quoi.
La question des soldes, tu vois, est-ce que tu vends tant que ça en solde? On part toujours de la même question de sustainability, tu vois, est-ce que tu fabriques pour faire des soldes?
Non. C'est quoi ta position par rapport à ça?
Mais nous, on solde quasi pas.
Ouais.
Quand on est obligé, on n'est pas plus intelligent que les autres, on le fait. Hein, mais on a des outlets, ce qui nous permet en fait de vendre la collection.
En propre, enfin en tout cas, oui.
En propre, qui nous permet de vendre la collection de l'année dernière à un prix encore très acceptable. Donc ça, et puis c'est aussi un vecteur de communication, les outlets maintenant, parce que c'est très très haut de gamme. Donc
oui, quand t'es à la Vallée Village,
voilà, nous on
est
à la Vallée Village dans ce type d'outlet là, donc ça c'est bien. Et puis on parle de moins 30%, tu vois, on n'est pas à moins 80%, donc c'est
vous êtes pas chez
moins
30, stockers,
ouais. Moins 40 quand il y a les opérations, tu vois, un peu du village. Donc, mais ça reste des tarifs qui sont corrects, parce que je veux absolument pas dégrader les pièces. Et puis t'as des pièces qui n'iront jamais en athlète. Les iconiques n'iront jamais en athlète. Donc ça, il faut être bien sûr de ça. Et puis c'est la seule manière de préserver la qualité de ta marque. Après, quand t'as des vrais problèmes de stock, t'es bien obligé de faire des soldes. Bon, tu les fais. Mais il faut pas penser la prod avec ça. Moi, je me dis pas, ok, il y a 30% de mon stock qui va partir en solde. Je me dis, non, il y a 100% de mon stock. Enfin, non, on est à des taux de sortie de 70-80% qu'on n'atteint pas forcément, mais c'est ça qu'on projette, en tout cas.
D'accord.
C'est sûr que dans notre écosystème à nous, il y a beaucoup d'intermédiaires qu'il faut rémunérer. Si tu vends dans les grands magasins, nous, ce qui nous coûte très très cher, c'est le marketing aussi. Dans une marque de vêtements, j'allais te dire, face aux mastodontes, parce que moi, quand je fais une campagne de pub, JC Decaux, je le paye le même prix que Louis Vuitton, hein.
Bien sûr.
Quand j'ai les vendeurs dans mes boutiques, leur benchmark, c'est les grands groupes. Enfin, tu vois, on a quand même tout un coût de vie, en fait, qui a augmenté énormément par rapport aux entreprises autour de nous.
Donc, tu as intérêt à bien marger, beaucoup marger, parce que derrière, il faut payer beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, en termes de communication, vous êtes... alors, est-ce que vous mettez les loyers des boutiques en communication?
Non.
Non.
Mais remarque, certains pourraient.
Non, mais voilà.
Mais par exemple, tu vois, la boutique de New York, c'est un très gros loyer.
Ouais. Même à Georges V, c'est quand même...
Oui, mais à côté de New York, c'est pas grand-chose. Paris, ça reste une petite ville.
Okay.
Mais non, oui, c'est des gros loyers, mais non, on les passe pas en frais de communication.
D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez fait en termes de communication qui ont été des gros wins pour vous et en fait, surtout, la question que je me pose, c'est la question de l'acquisition. C'est toujours pareil. C'est que, OK, tu développes ton parc de boutiques, des wholesalers, etc., des retailers. Comment est-ce qu'on fait grandir une marque de 1 à 60 et de 60 à 120? C'est quoi en termes de com ce qu'on fait?
Je pense que c'est pas tout à fait pareil dans les deux cas. Le premier cas, c'est beaucoup ce que tu disais, les points de contact avec la marque. Donc beaucoup les points de vente. Pardon. Les points de vente ont beaucoup, beaucoup apporté à la visibilité. C'était notre premier élément de com, parce que dans les premières années, on avait des budgets communication qui étaient quand même très, très, très restreints. C'est de faire des campagnes de pub qui soient extrêmement inspirantes. Donc, par exemple, on a fait notre première campagne avec Constance Jablonski, avec des images hyper fortes. Elle était magnifique. Et ça, elles ont beaucoup marqué. C'est se servir, en fait, des certains éléments qu'on a. Beaucoup de placements de produits. On est partenaire du Festival de l'Alpe d'Huez, donc on a habillé beaucoup, beaucoup de personnalités du cinéma français, et ça nous a beaucoup apporté. Enfin, voilà,
c'était des dotations produits ou c'était un peu
dotation.
Plus
ouais, dotation. Juste dotation, ouais. On donnait, et on donne toujours, des produits, et ça nous a permis vraiment d'avoir cette visibilité-là. Donc ça, je pense que la française, tu vois, et puis les boutiques dans les belles stations françaises, à Megève, à Courchevel, à Val d'Isère, qui du coup... pour les populations aisées qui vont en vacances là-bas, faisaient référence. Donc ça, c'était très important. De la presse aussi, évidemment. Voilà. Et puis Colette, j'en ai parlé. Maintenant, on est plus dans la cour des grands, tu vois. On rentre dans la Ligue 1 un peu. T'as envie de te dire, il faut sortir plus de muscles. D'où Georges V. J'ai quelqu'un qui s'appelle John Storey, qui était très proche de Sarah, d'ailleurs, qui est un homme fantastique, mais qui a complètement arrêté, qui était RP dans la mode. Et qui est américain, et qui disait, we're gonna have Perrier budget with a champagne effect. Tu vois. Donc ça, je trouvais ça très chouette. C'était exactement la stratégie des premières années. Là, tu vas aux États-Unis, c'est Dom Pérignon budget with a Perrier effect. Hein, tu vois, c'est vraiment le. il faut sortir vraiment beaucoup, beaucoup de muscles. Donc là, c'est une stratégie pareille, hein, finalement de placement de produits, beaucoup de stratégie client aussi autour des magasins, de faire des déjeuners, d'inviter des gens, d'avoir des ambassadeurs, de trouver en fait des gens prescripteurs qui vont porter la marque et qui vont donner envie de la porter, avoir des partenariats pareils, avoir des bonnes personnes qui portent la marque. Ça a un impact aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux qui est délirant. Donc, c'est trouver ces petits points d'accroche. Comme on n'aura pas le budget des très, très grandes marques, c'est trouver
smart, ouais.
Les choses qui peuvent avoir un peu de l'effet.
Toi, tu donnes de ta personne aussi. Tu fais des interviews, tu fais beaucoup de RP quand même. Enfin, on t'a vu sur Génération Eat Yourself, sur Bold, Veuf Clicquot. Tu viens à mon micro. T'incarnes quand même vachement le projet. C'est important, ça aussi, d'incarner.
Je pense. Alors après, je suis pas la bonne personne pour te le dire, mais ce que je pense aussi, c'est que partager en fait notre projet entrepreneurial,
ça peut toucher les gens.
Donner envie aux gens de nous aider.
Oui, c'est vrai.
Et de se dire, voilà, je sais qui a fait ça, pourquoi c'est fait, et ça me donne envie d'avoir un lien avec la marque et de créer. De créer de l'affect autour de la marque, et ça, je pense que c'est important.
Comment vous faites en sorte, vous êtes un produit haut de gamme, etc., d'offrir un service de ouf à vos clients?
Ça, c'est hyper difficile. Hein. C'est ce qu'on recherche, et on n'y arrive pas toujours, mais il faut qu'on offre, parce qu'on a une clientèle qui est très exigeante, donc il faut qu'on offre le meilleur service. Je pense qu'on fait les meilleurs produits du marché,
En toute humilité.
En toute humilité et en toute objectivité, parce que en humilité, je peux le faire parce que je n'y suis pour rien. Mm. Tu vois, c'est pas moi qui les conçois, c'est pas moi qui les fabrique, c'est pas moi qui choisis les matières. Mm. Moi, je fais inspecteur des travaux finis, ce qui est quand même.
Tu veux te mettre bien avec ta belle sœur.
Le job le plus facile. Ouais. Non, je dis toujours que la seule d'entre nous qui est pas remplaçable, c'est elle. Nous, tout le monde peut faire ce qu'on fait, mais ce qu'elle, elle fait, personne ne peut le faire. Donc, c'est vraiment mon trésor le plus précieux, Mathilde. Mais je pense qu'en termes de style, c'est une chose, mais en termes de qualité, de technicité, de montage, on fait des produits qui sont extraordinaires. Donc ça, ce service-là, on l'a. Mais après, tout le service humain autour d'accompagnement, de service après-vente, d'être sûr que la réparation soit nickel, on travaille dessus en permanence pour l'améliorer. Et puis évidemment, avec tous les enjeux RH qu'on a tous, pour trouver des gens qui soient motivés, qui aient envie de donner de leur personne. On est encore une petite boîte, donc il faut... Faut être un peu entrepreneur de son projet. Les responsables de boutique chez nous, ils ont beaucoup de choses à faire. Mais c'est ça, il y a des gens qui aiment ça. Donc il faut qu'on trouve des gens qui aiment ça, qui délivrent ça aux clients, qui aient un service absolument impeccable. Et en même temps, avec bonne humeur. On n'est pas là pour être cérémonieux. On est là pour être respectueux, mais souriant, accueillant. Il faut se sentir bien dans nos magasins. D'ailleurs, on n'a pas de concept unifié. On a évidemment une ligne directrice, des codes esthétiques, mais on adapte en fait chaque boutique à son environnement. Et puis surtout, chaque boutique est améliorée par rapport à celle d'avant. En fait, on essaye de faire toujours mieux. On a des nouvelles idées. Encore une fois, pas moi du tout. Hein, en l'occurrence, c'est notre architecte et Mathilde qui avance avec les équipes retail aussi pour les innovations, pour le merchandising, tout ça. Et de faire. Donc, j'aime bien cette idée qu'aucune de nos boutiques ne se ressemble. Elles se ressemblent toutes. Et en même temps, aucune ne se ressemble vraiment. Donc ça, c'est
comment
intéressant.
Comment on fait vivre d'ailleurs ces deux mondes, là, la neige et puis la ville dans vos boutiques, enfin, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire comprendre le concept à ses clients ?
En montrant les produits. Alors après, tu as les visuels. Forcément, si tu prends que des photos de gens sur la neige, tu as du mal à imaginer que tu peux s'apporter en ville. Enfin bon, ça, c'est un peu le béaba. Mais c'est aussi... je pense beaucoup le merchandising qui peut apporter ça, comment tu montes les produits, comment tu les montes portés. Et tu dois avoir un effet waouh, en fait. C'est-à-dire que le produit est beau sur le cintre, tu l'essayes, il est incroyable. Et donc, il y a vraiment besoin d'un accompagnement par les services de vente très importants et beaucoup de passion autour de ces produits.
Trop bien. C'est quoi qui a fait la différence, tu penses votre trajectoire est quand même. Vous auriez pu aller plus vite, tu penses, sur la V1, enfin sur la première.
Peut-être.
Sur les 10 dernières années.
Alors bon, il y a eu le Covid, tout ça qui a fait quand même un petit ralentissement, mais finalement pas tant que ça. Peut-être, mais on n'en avait pas envie.
Oui.
Je pense qu'on fait la croissance qu'on est capable nous de faire. On avait envie de faire quelque chose de solide. Ça, c'était très, très important pour nous. C'est pas un coût financier avec un retournement en 5 ans ou en 7 ans. C'était pas ça l'objectif. C'est de vraiment servir cette marque, de nous amuser dedans et d'aller à notre rythme aussi pour rester aussi indépendant.
Ouais. Et qu'est-ce qui a fait la différence jusqu'à présent, tu penses ?
Je pense que c'est la force de la marque, son ADN, d'être arrivé à faire des produits justes. Après la différence, je ne saurais pas te dire. C'est pour moi, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et à prouver. On n'y est pas encore. Mais je pense que cette marque est vraiment très, très puissante. Et donc, nous, on a tous ces codes à développer et la chance d'avoir une directrice artistique très radicale sur les codes et très, très sûre de ce qu'est l'identité de Fusalp. Donc après, on peut diverger, on peut faire plein de choses, plein d'animations, mais au moins la colonne vertébrale est là et elle est forte.
Tu dis que vous êtes resté indépendant, vous n'avez pas levé de fonds jusqu'à présent ?
On a levé un tout petit peu de fonds, mais nous, on reste en garde de 70% de l'entreprise, tu vois. D'accord. Donc on reste...
Et comment vous avez financé cette croissance ? Alors, c'est de l'argent en propre et
un petit peu d'argent en propre, de la banque, des emprunts, la BPI qui nous aide énormément. Okay. Je veux dire, en France, on a une chance avec la BPI qui est incroyable. On est vraiment, les gens disent quand même entreprendre en France. Non, entreprendre en France, c'est formidable. On est extrêmement aidé. On a bien vu. Enfin, merci Monsieur le Président pour le Covid. Enfin, c'était quand même, on a été vraiment accompagné et on est accompagné. Par beaucoup d'organismes, donc on a beaucoup de chance. mais à part cet aparté, non, on a levé un petit peu de fonds, pas énormément non plus. Et puis voilà, on a autofinancé aussi. Ouais. On n'a pas beaucoup de projets qui perdent de l'argent. On essaye d'en avoir le moins possible et d'avancer.
Parce que dans la mode, tu as quand même un besoin en fonds de roulement qui est taré, quoi.
Ouais, ça, c'est le gros sujet. Donc ça, c'est le gros travail avec les banques pour avoir des découvertes et surtout avec une saisonnalité comme la nôtre. On a des trous de BFR qui sont vertigineux et plus tu grandis, plus ils grandissent. Donc c'est pour ça qu'on a cette nécessité de
lisser l'activité,
d'essayer, alors de la lisser complètement non, mais d'améliorer cette saisonnalité.
Très bien. Les équipes, comment vous les avez fait grandir ? Tu disais tout à l'heure, vous étiez 30 au tout démarrage. Comment vous avez structuré la société ?
Au fil de l'eau, j'ai envie de te dire.
En prenant des C-levels au fur et à mesure qu'on avance, c'est ça ?
Enfin, pas tout de suite. Hein. On a été quand même beaucoup, beaucoup très junior, en faisant beaucoup de choses, nous. Et puis, petit à petit, oui, quand on a eu un peu de moyens, on a recruté petit à petit une équipe, un comité de direction qui est hyper, hyper engagé, de super qualité. Voilà, on a des gens vraiment top, mais qui sont pas là forcément depuis très longtemps. Hein. Je crois que ça fait 5 ans, je crois, le premier C-level, vraiment.
Ouais. Comment vous les choisissez ? Comment ? Qu'est-ce qui fait un bon profil pour toi ?
Quelqu'un qui adore le projet, déjà.
Il faut qu'il soit amoureux de la marque.
Ouais, faut être amoureux du projet, faut avoir envie, faut le comprendre. Faut avoir envie de travailler avec nous aussi, tu vois. C'est travailler dans une PME familiale comme ça, c'est pas comme travailler dans un gros groupe. Donc il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas, donc il faut faire avec ça. Et puis voilà, et être enthousiaste, et évidemment c'est des gens qu'on admire, dont les compétences nous enthousiasment. Mais encore une fois, beaucoup d'instinct.
Ouais, l'instinct. L'instinct, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace, il me semble, hein, l'instinct, finalement. Toi, comment tu... Ça ressemble à quoi, tes journées ? Comment tu t'organises ? T'es co-CEO, hein, tu disais.
Oui, non, je suis co-chairman.
Pardon, co-chairman. J'ai du mal, hein, chairman, CEO, président. C'est-à-dire que t'es pas... Enfin, t'es vachement opérationnel, quand même, non ?
Non, alors, en ce moment, je le suis parce qu'on est dans une période de transition de direction générale.
OK.
Donc là, on va avoir une nouvelle direction générale qui va arriver. Donc, du coup, avec mon frère, on a assuré la direction générale pendant quelques mois. Mais normalement, non, je suis pas très opérationnelle. Alors, je l'ai été beaucoup plus parce que forcément, comme on n'avait pas de C-level, on a fait un certain nombre de choses, beaucoup nous. Mais ma vocation à moi, je pense que là où je suis la plus utile, c'est quand même avec mon frère, c'est quand même ce pas de recul. Nous, notre sujet, ce qu'on doit faire, c'est assurer que l'entreprise est bien financée. Et avoir une vision stratégique, en fait. C'est ça, notre travail. Et faire en sorte que l'entreprise ait tous les moyens pour développer sa stratégie. Donc, moi, mes sujets, ils sont extrêmement financiers. Ils sont juridiques aussi. On s'occupe beaucoup de tout ce qui est juridique.
C'est quoi les sujets juridiques ?
Beaucoup de problèmes pratiques de protection de marque.
Ah, parce que vous faites copier à fond.
Les marques, il faut qu'on dépose les marques. Les marques, nos fusales peuvent être déposées de manière frauduleuse. Enfin, c'est pas un boulot à plein temps, mais bon, c'est un vrai sujet qu'il faut adresser parce que notre plus grand asset, c'est la marque. Donc, je ne peux accepter aucune faille dans ce système-là. Donc, c'est pour ça que c'est nous qui le faisons parce que je veux être bien sûr de tout ce qui est fait. Et puis on s'occupe évidemment pas mal de marketing, communication, on s'en occupe un peu puisque comme on est partie prenante, mais et puis tout ce qui est structure de collection aussi, moi c'est des sujets qui me passionnent, mais surtout qui sont absolument stratégiques, donc je veux absolument savoir ce qui s'y passe de manière très proche. Après, oui, alors on fait pas de micromanagement, il y a un CEO, c'est lui qui dirige la boîte, mais en revanche on est quand même très très, c'est un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe.
Et ton frère, il fait quoi, lui ?
Pareil, il est beaucoup sur la stratégie et sur le financier.
Très bien. Il me semble que dans l'épisode avec Mathieu, tu disais que c'était un mi-temps pour toi, de le Fusalp ?
Oui, bon, un mi-temps d'une trentaine d'heures.
Hein, ouais, c'est ça.
mais non, parce que moi, j'ai besoin de faire beaucoup de choses, en fait. J'aime bien, j'aime avoir beaucoup de soupapes et changer de point de vue sur le monde, souvent.
D'accord. Comment tu fais en sorte, comment sont organisées tes semaines alors pour éviter de... En fait, la question que je me pose, que moi aussi j'aime bien avoir plein de projets, mais bon, c'est pas le même level que toi, mais c'est comment tu fais en sorte de garder de la hauteur, d'être efficace sur tous les sujets, de pas te perdre, de pas te disperser aussi, ouais. Parce que c'est quand même un sujet ça, la dispersion, je trouve.
Ouais, c'est un gros sujet. Moi, je suis très organisée. J'ai un emploi du temps hyper organisé, mais que je maîtrise moi. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis, quand j'ai des conflits d'emploi du temps, je choisis vraiment où je mets les curseurs et je me laisse pas déborder. C'est un truc que je ne vais pas plus loin que ce que je veux, où je veux aller. Bon, je travaille beaucoup, j'aime beaucoup travailler, donc j'ai pas de sujet avec ça, mais je me lève très tôt le matin.
À quelle heure?
Je me lève à 6 heures, ce qui est tôt pour moi. T'as des gens qui se réveillent à 4 heures, hein, mais moi, pour moi, 6 heures, c'est tôt.
C'est déjà pas mal. Ouais.
Je pourrais pas me lever plus tôt que ça. Mais ce qui me fait quand même bon du temps avant de partir le matin. Mais j'aime pouvoir maîtriser et choisir ce que je fais. Je me laisse jamais imposer quoi que ce soit. Je choisis vraiment mes priorités et ce que je fais. Et ça, c'est très important pour moi pour toujours avoir l'impression de maîtriser et d'être à ce que je fais. Voilà. Après, par exemple, le théâtre, pour moi, est absolument nécessaire. Je peux pas vivre sans. Tu vois, la période où les théâtres avaient été fermés, pas le premier confinement, mais le deuxième pendant l'hiver, j'étais vraiment pas bien, mais pas bien du tout. Quoi.
Et tu montes sur scène encore ?
Non, plus du tout.
Ça te manque pas, ça, le...
Non, après je dis pas que je m'en trouverai plus jamais sur scène, tu vois, la vie est longue, hein, j'ai 47 ans, donc j'ai un petit peu de temps encore devant moi, donc peut-être que je me remonterai sur scène, mais ça me manque pas, non, pas spécialement, parce que de toute façon, en plus, bon, mais j'ai quand même l'impression d'être dans une créativité artistique, moi toute seule avec moi-même, donc je me satisfais de ça, et voilà, donc j'ai besoin de toutes ces soupapes-là. Et je m'organise et puis en fait ça se passe plutôt très bien. Mais je me sens jamais débordée.
Très bien. T'as pas des petits tricks, des petits outils cool que tu utilises à part un agenda, un carnet de notes et.
Ouais. Alors j'écris pas pour me relire, j'écris pour me souvenir.
Ouais.
C'est un truc. J'écris très très mal. Mais c'est le fait d'écrire, ça me permet évidemment que je me relis de temps en temps, mais ça me permet de mémoriser. J'ai besoin d'écrire pour réfléchir aux choses. D'ailleurs, j'ai souvent un temps de latence, en fait. Quand on me dit des choses, je réagis pas toujours tout de suite, tu vois. Il me faut parfois une ou deux heures et je reviens vers les gens en disant, écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Je suis pas quelqu'un qui réagit forcément au quart de tour. J'aime bien.
T'es pas une yes girl qui dit oui à tout de suite.
Non, je me méfie de ça parce que souvent je regrette. Donc, du coup, j'essaye de réfléchir un petit peu. Je réponds pas aux emails en tac au tac. Bon, c'est parfois oui, hein, mais si on me pose une vraie question, parfois je laisse passer 24 heures. Non, je pense que le truc, alors, mais encore faut-il pouvoir. Moi, j'ai une vie qui est quand même hyper chanceuse. C'est-à-dire que je peux choisir ce que je fais. Et je pense que le truc pour pas se sentir débordé, c'est choisir ce qu'on fait. Si t'es aligné avec ce que tu fais,
tout va bien.
Tu le choisis, en fait, tu le subis pas.
Bien sûr.
C'est bon.
Si c'était à refaire, tu ferais quoi différemment là, dans ta carrière ?
J'ai une grande chance, c'est que je connais pas la nostalgie, en fait. Donc, je ferais... Alors oui, évidemment, il y a des choses... où je me dis avec un peu plus d'expérience j'aurais pu traiter de manière un peu différente, plus diplomatique, plus stratégique notamment avec ma famille, tu vois, où peut-être j'étais un peu trop radicale sur certains sujets mais ça aurait rien changé en fait. Et non, j'ai pas de vrai croiser des chemins où je me suis dit j'ai pris le mauvais chemin, parce qu'encore une fois
t'es pas nostalgique, quoi.
Non, et puis j'ai toujours fait ce que j'ai voulu.
Parce que ça a laissé des séquelles, la transition à Lacoste, enfin la vente de Lacoste dans la famille.
Pas vraiment, c'est pas ça. C'est juste de me dire, ce jour-là, j'ai pas été très maligne quand j'ai fait ça comme ça. Tu vois, c'est plus ça. C'est pas une question de séquelles. C'est, je me dis, il aurait été plus malin de faire les choses un peu différemment parfois. Mais bon, voilà, on n'est pas tout le temps malin. On apprend aussi.
Ouais, on apprend en marchant, bien sûr.
Et puis, je suis toujours pas non plus, mais donc, faut, voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, on a parlé de pas mal de choses quand même, non? Est-ce qu'on on a des sujets que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordé? Non.
Non, ça me paraît bien.
Trop bien. Eh ben, dernière question pour transmettre le relais. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans The Bold Way?
Alors moi, il y a quelqu'un qui m'intéresserait beaucoup d'entendre. C'est une femme qui s'appelle Aurélie Julien. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. Parce que je trouve que c'est un point de vue intéressant parce qu'elle est, elle est agent d'artiste. Et elle aide beaucoup. D'ailleurs, elle travaille avec Karine Oreilleff. Elle aide beaucoup les gens à transformer leurs projets, à transformer leur vision, notamment beaucoup en design. Et c'est des gens qu'on n'entend pas très souvent, ces gens-là, parce que, et malgré tout, c'est quand même eux qui façonnent beaucoup, finalement, ce qui arrive.
Carrément.
Donc, je trouve que c'était une parole intéressante.
Bah, je veux bien une petite mise en relation, ça m'intéresse beaucoup aussi, ce genre de témoignage. Merci infiniment, Sophie.
Merci
à bientôt.
À toi beaucoup, Adrien.
Salut.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.